haut comme ouvriérisme. Au nom de l'ouvriérisme, Marx lui-même faillit ne pas pouvoir prendre part au premier congrès de l'AIT à Genève en 1966, puisqu'il n'était pas ouvrier, et que certaines voix voulaient faire de cette appartenance au monde ouvrier, à la condition ouvrière, une condition exclusive. Alors donc, ouvriérisme, peut-être pour parler de l'articulation entre, d'un côté, théorie, essais théoriciens, et mouvement révolutionnaire. Mais on pourrait formuler la question autrement. Quelle est donc la place d'un Georges Labica, philosophe, au sein du mouvement ouvrier ?
Oui, ouvriérisme, on pourrait dire que c'est une perversion du mouvement communiste. Mais c'est une perversion qui, tout au moins à ses débuts, a sa justification. Elle a sa justification en ce sens qu'il apparaît normal que pour conduire la lutte de classe qui apparaît si dure entre la bourgeoisie et le prolétariat, ce sont les prolétaires eux-mêmes qui doivent assurer cette lutte et qui doivent être les leviers de cette lutte, à l'exclusion, par conséquent, de toute autre classe sociale ou de tous autres individus. Ça paraît tout à fait naturel, cela. Et c'est ça qui se marque dans l'épisode que vous avez rappelé vis-à-vis de Marx. En 1866, lorsque la Première Internationale est fondée, ce n'est pas une formation marxiste, elle est créée par différents mouvements. Une des forces dominantes avec les travailleurs anglais, ce sont les travailleurs français, et en particulier les travailleurs de l'imprimerie. Ce sont essentiellement des délégués à l'international qui appartiennent au proudhonisme, à la tradition proudhonienne, c'est-à-dire à une tradition qui a quand même un caractère anarchiste. Et c'est ainsi que le représentant des proudhoniens à l'international, qui s'appelait Tolin, considère que Marx ne peut pas siéger dans l'international, tout simplement parce qu'il n'est pas ouvrier. Et c'est au moment où Marx aurait pu être expulsé, c'est l'intervention des délégués des trade unions britanniques qui empêche cette expulsion. Et ça, c'est une histoire qui n'est pas finie, ça. La tendance va rester au contrôle des organisations ouvrières par les ouvriers, c'est-à-dire par des gens qui appartiennent à la condition ouvrière, et qu'elle va naturellement être source de suspicion au moment même où le mouvement sera assez fort pour s'agglomérer des éléments qui sont venus d'autres classes, en particulier de la petite bourgeoisie, parfois de la bourgeoisie, et donc les intellectuels. Derrière tout ça, je répète, il y a l'idée qu'on trouve dans la chanson de Potier « Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes ». Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance à d'autres éléments pour conduire la bataille de classe. Ajoutons, c'est que seul l'ouvrier possède ce qu'on appelle l'instinct de classe. Cette expression d'instinct de classe a été régulièrement utilisée pour désigner le réflexe qui ne peut venir que d'un travailleur, que d'un prolétaire. Un mot sur la question qui est centrale dans cette affaire-là, des intellectuels et des théoriciens en général. C'est une affaire qui est assez compliquée parce qu'on a ce paradoxe d'un docteur en philosophie, ce qu'était Marx quand même, qui se trouve énoncer la première doctrine de libération révolutionnaire des travailleurs. Pensons au capital. Marx écrit « Le capital » du point de vue de la classe ouvrière. Du point de vue de la classe ouvrière, ça veut dire que le capital n'est pas passible d'une lecture par les économistes. Qu'il s'agisse des économistes classiques ou qu'il s'agisse des économistes qu'il appelle vulgaires, c'est-à-dire des économistes qui se croient proches des travailleurs et qui en fait véhiculent des théories totalement inadéquates à la compréhension de la situation. Voilà le paradoxe. Nous l'avons dès le départ. Un intellectuel qui montre les voies de la révolution, qui les définit. À telle enseigne que le mouvement ouvrier, lorsqu'il prendra conscience de sa force, se réclamera de Marx. Alors je reviens, pour bien saisir ça, je reviens à la Première Internationale. La Première Internationale peut se résumer comme la lutte idéologique entre le marxisme et l'anarchisme. Toute l'internationale se déroule sous le signe de cet affrontement. Lorsque l'internationale se sépare, on peut dire que du point de vue théorique, le marxisme a gagné et que l'anarchisme a été vaincu. En fait, il a gagné sur le plan théorique, mais il n'a pas gagné sur le plan pratique. L'influence de l'anarchisme demeure forte dans un grand nombre de pays, singulièrement en Espagne et en Italie. Ça montre effectivement que l'idée d'un ralliement, comme on dira par la suite, d'un ralliement des intellectuels, est une idée qui est difficile à faire passer dans le mouvement ouvrier, singulièrement lorsque le mouvement a été au départ un mouvement d'orientation anarchiste. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que d'une part, on admet que ce soit un docteur en philosophie qui a énoncé la théorie de la libération de la classe ouvrière, mais que par la suite, on a une réserve vis-à-vis de la petite bourgeoisie, vis-à-vis des intellectuels qui viendraient rejoindre le combat de classe. Alors évidemment, on montrerait dans l'histoire du mouvement ouvrier des quantités d'exemples où les intellectuels, la petite bourgeoisie, a joué un rôle relativement malfaisant, souvent parce que leur conviction n'était pas telle qu'ils puissent parfaitement adhérer aux mêmes démarches que celles des travailleurs. Mais si on regarde du côté des travailleurs aussi, ce ne sont pas les traîtres qui vont manquer. Hein, l'histoire du syndicalisme en est l'illustration. Je prends maintenant j'aborde le point que vous avez soulevé à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, dans le Parti communiste français? Je crois qu'il s'est passé dans ce parti quelque chose de tout à fait spécifique. Il y a une tradition, incontestablement ouvriériste, dans le Parti communiste français, qui donne à penser que, finalement, les idées développées par les proudhoniens à l'international pour empêcher Marx de siéger ont gardé une certaine vitalité. Et c'est la raison pour laquelle le Parti communiste français est peut-être la formation politique qui a le plus longtemps résisté à l'introduction des intellectuels, non pas dans ses rangs, mais au niveau de sa direction. Si on regarde les différents partis communistes européens, tous, et d'abord le parti soviétique naturellement, a été dirigé par des intellectuels. Lénine était un intellectuel, que je sache, Trotsky et un certain nombre d'autres aussi. Le parti allemand, c'est la même chose. Kautsky n'était pas un ouvrier d'usine. Le parti italien, c'est la même chose. Le parti Togliatti, Berlinguer et d'autres n'étaient pas d'origine, disons, prolétarienne. Et on peut comme ça étendre la chose jusqu'en Chine, jusqu'à Cuba. On ne trouve que des intellectuels à la direction des partis. Il n'y en a jamais eu en France. Il n'y a jamais eu en France, il n'y a pas eu de secrétaire du parti en France qui ait été, disons, d'origine intellectuelle. Et ce n'est pas péjoratif, naturellement, ce que je dis. On constate au contraire que les intellectuels, globalement, ont fait l'objet d'une méfiance qui ne s'est jamais ralentie. Il y a eu des intellectuels importants qui ont été communistes. Des gens comme Gide, comme Anatole France, comme Aragon, comme Politzer, etc. Ces gens-là, à la direction du Parti communiste, étaient considérés et appelés des grands intellectuels. C'est-à-dire, le grand intellectuel, c'est celui qu'on met à la boutonnière en s'adressant à la bourgeoisie pour dire, vous voyez, il n'y a pas que vous qui ayez des cerveaux, nous on en a aussi. Mais ces intellectuels n'avaient pas de rôle, sauf un rôle de représentation aussi longtemps que la direction politique avait besoin du prestige de ces représentants-là. Le meilleur exemple est donné par la présence de personnages comme Politzer ou Nizan. Politzer a joué le plus grand rôle dans les orientations du Parti communiste français. Il a en particulier été le véritable porte-plume, porte-pensée de Maurice Sorez. Mais Politzer n'a jamais joué de rôle politique, il n'a jamais été en avant politiquement. Au nom de quoi cette méfiance ? Bien parce qu'on disait qu'à cause de son origine de classe, l'intellectuel est un traître en puissance. À tout instant, il faut qu'il fasse la démonstration qu'il est fidèle à son engagement aux côtés des travailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui a duré au point que Dans les congrès du Parti communiste, vous savez qu'il faut remplir une fiche dans laquelle on indique toutes sortes de renseignements, mais on indique surtout sa qualité professionnelle. Qualité professionnelle, bon, quand on est prof, on est prof, quand on est médecin, on est médecin. Mais pour les dirigeants du parti, même lorsqu'ils avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans de statut finalement de fonctionnaire, ce qu'on appelle des permanents dans les partis politiques, eh bien l'un écrivait paysan, l'autre écrivait ouvrier. L'un parce qu'il avait été pendant 2 ans effectivement à la campagne, il avait été garçon de ferme ou éventuellement boulanger. L'autre parce qu'il avait fait 6 mois ou 1 an en usine, attendant que le syndicat le sélectionne et qu'enfin le parti le porte à sa direction. C'était donc un jeu d'apparence, ça, qui relève d'une sorte de fétichisation qui vient jusqu'à nous. Hein, qui vient jusqu'à nous. Il n'y a pas d'exemple dans le Parti communiste français. Les choses ne se sont pas passées ainsi. Alors ça, évidemment, ça entraîne des conséquences sur la question beaucoup plus importante qui est celle de la relation de la théorie et la pratique, qui est tellement chère à la tradition communiste, sur laquelle insistait tellement Lénine, qui s'est donné beaucoup de mal pour lire Hegel et lire le maximum de littérature philosophique, économique, etc., précisément pour déterminer la relation à la pratique. Et ça, ici, le livre qu'il faudrait recommander, c'est la petite brochure de Lénine qui s'appelle « Que faire ?», dans laquelle Lénine accepte qu'il y a bien un instinct de classe, il y a bien une conscience ouvrière, mais il ne peut y avoir une intelligence de la situation qu'à la condition que des intellectuels apportent, disons, la science, entre guillemets, à leurs camarades travailleurs. Alors, je sais que cette idée a été contestée. Elle a été contestée et les partis comme le Parti communiste français qui ont fait de l'ouvriérisme l'ont admise avec difficulté. Ils l'admettaient pour la fondation même du mouvement, mais ils ne l'admettaient pas pour son développement, en ce sens qu'on évoquait la spontanéité de la classe ouvrière qui trouvait elle-même ses solutions. Le prix de tout cela, c'était que la spontanéité ouvrière n'a jamais rien créé du tout, tout au moins dans un pays comme le nôtre. En échange, on a eu des intellectuels qui étaient des intellectuels pseudo-organiques parce qu'ils étaient entièrement dévoués aux thèses intellectuelles qui venaient directement du parti de l'Union soviétique et donc de Staline.